Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
André Le Fouquier, homme de lettres et homme du monde, raconte dans ses mémoires parues en 1951 une habitude qu'avait la princesse de Breuil lorsqu'elle se rendait à l'hôtel. Craignant d'être incommodée par le bruit qu'auraient pu faire ses voisins, elle exigeait une chambre isolée, c'est-à-dire qu'aucun appartement, ni à gauche, ni à droite, ni au-dessus, ni en dessous, ne devait être occupé, ce qui augmentait singulièrement ses notes de séjour. Un détail pour cette richissime héritière habituée depuis l'enfance aux petits caprices et aux plus grands palaces. Avant d'être la princesse de Breuil, Marie Say naît le 25 août 1857 près de Paris, dans une richissime famille d'industriels. Son grand-père Louis, propriétaire d'une raffinerie de sucre à Nantes, a fait fortune en important de la canne à sucre des Antilles. Son fils Constant, le père de Marie donc, a repris l'entreprise Louis Say et compagnie et l'a fait prospérer tout en connaissant une fantastique ascension mondaine. Constant Say meurt en 1871 et son épouse le suit dans la tombe l'année suivante. À 14 ans, Marie est donc orpheline et hérite alors d'une fortune monumentale. L'entreprise reste aux mains de la fratrie Say, mais la gestion en est confiée à un directeur général, Ernest Cronier. La jeune héritière ne s'occupe de rien. Sa sœur, Jeanne, elle, a épousé le marquis de Brissac. Dans la haute société, l'ancienne aristocratie se mêle désormais à la grande bourgeoisie, aux capitaines d'industrie, justement, et aux hommes politiques de la Troisième République naissante. Aux côtés de son aîné, la jeune Marie côtoie le tout Paris. Elle y rencontre le prince Amédée de Breuil, un charmant aristocrate pour qui son cœur s'emballe. Très vite fiancé, le couple fait un voyage dans la vallée de la Loire. C'est là que Marie découvre pour la première fois le château de Chaumont-sur-Loire et qu'elle en tombe littéralement amoureuse. L'histoire raconte qu'elle s'écrit même exaltée « Je veux ça !» Et ce qu'elle veut, Marie l'a. La même année, 1875, peu avant ses 18 ans, Marie épouse Amédée en l'église de la Madeleine à Paris. Le prince est le fils du duc Albert de Breuil, qui était encore un an auparavant président du conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Oh, il se trouve bien sûr quelques vieux barbons pour désapprouver la mésalliance, mais la richesse de la mariée rattrape son absence de noblesse. Sa dot s'élève tout de même à 12 millions de francs or. Bon, à titre de comparaison, le château ne lui a coûté qu'1,7 million de francs or. Personne, à part peut-être la famille Rothschild, ne peut prétendre à une plus grosse fortune que Marie Say. Marie et femme, le prince et la princesse de Breuil donc, peuvent désormais mener leur vie comme ils l'entendent. Amédée est militaire, mais très amoureux de son épouse, il se range à son avis et abandonne la carrière pour vivre auprès d'elle tous les jours. Entre janvier et juin, pour la saison mondaine, le couple séjourne dans son hôtel particulier, au 10 rue de Solferino. Une adresse connue aujourd'hui pour avoir abrité le siège du Parti Socialiste pendant des années. L'été, ils voyagent à bord de leur yacht, en Grèce et même jusqu'en Chine et au Japon. Le reste de l'année, ils le passent à Chaumont-sur-Loire. Le couple restaure le château de fond en comble. Rien n'est trop beau ni trop moderne. Au carrelage à l'italienne, récupéré pierre par pièce d'un palais de Palerme, se conjugue l'électricité et un ingénieux système de pompage qui alimente en eau les 32 chambres et les cuisines. Le prince de Breuil gère le domaine et les finances d'une main de maître. Il a placé la fortune de sa femme et en tire des revenus qui lui permettent de ne jamais toucher au capital. Marie peut donc, en toute quiétude, se consacrer à son activité favorite, recevoir. La princesse tient des listes d'invités qui comptent jusqu'à 8000 noms, soigneusement classés. On y trouve entre autres le personnel de l'intimité, le personnel du bridge, celui des ambassades. Pendant toute la période des chasses, les dîners magiques d'une dizaine de services ponctuent des journées dédiées aux promenades dans le parc et aux jeux nautiques sur la Loire. Les soirées sont réservées aux bals masqués, aux représentations théâtrales et musicales. Pour ses visiteurs de marque, la princesse fait venir tout exprès la troupe de la Comédie Française ou celle de l'Opéra de Paris par le train privé qu'elle possède en gare d'Austerlitz.
Bien sûr.
De minuit jusqu'à l'aube, on joue au bridge en dégustant des liqueurs, des sirops et des gelées de fruits. Un bonheur pour les invités, un cauchemar pour les domestiques qui doivent jongler entre des convives toujours plus nombreux qu'annoncés et des heures de repas très fluctuantes. Comble de l'extravagance, Marie entretient dans le parc de son château une éléphante offerte par le Maharaja de Kapurthala au lendemain d'un séjour à Chaumont, Miss Punji. À Chaumont, c'est un peu le goût de l'ancien régime que l'on tente de retrouver. La grande Sarah Bernard s'y produit plusieurs fois devant le roi d'Angleterre Édouard VII et celui du Portugal, Don Carlos. C'est l'atmosphère de la recherche du temps perdu où se rencontre aussi le comte de Montesquieu, célèbre dandy. Winnie Singer, héritière des machines à coudre du même nom et épouse du prince de Polignac, ou la femme de lettres, Elisabeth de Gramont. L'écrivain Marcel Proust lui-même fréquente d'ailleurs le salon de Marie de Breuil à Paris. En 1905, un nuage vient gâcher un peu le soleil de la famille Breuil.
Oh non.
Ernest Cronier, le directeur général de la raffinerie, se suicide. Oui, il a joué les fonds de la société en bourse et perdu énormément d'argent. À son mari, qui recommande de revoir le train de vie de la maison, on prête à la princesse cette réponse, sans doute trop belle pour être vraie. « Puisqu'il faut nous restreindre, je décide de supprimer les petits pains au foie gras du goûter. » En 1917, le prince Amédée de Breuil décède d'une pneumonie. Il laisse sa femme Marie seule aux manettes d'une fortune dont elle ne s'est jamais occupée, si ce n'est pour la dépenser. Et la princesse, hélas, ne va pas prendre que de bonnes décisions. Dans les années 1910, la princesse de Breuil est renversée par une danse nouvelle qui cause le scandale, le tango. Bravant les convenances, elle gagne même en 1913 le premier prix d'un concours parisien. À Chaumont, parmi ses invités, se trouve un jeune homme qui l'y a initié. C'est le prince Louis-Ferdinand d'Orléans-Bourbon, infant d'Espagne, cousin du roi Alphonse XIII.
Bien sûr,
veuve désormais, sans doute séduite à l'idée de faire partie de la famille des Bourbons, Marie décide de l'épouser. Ses proches tentent de s'interposer. Alors, les deux tourtereaux s'enfuient en Angleterre où ils se marient à Londres en septembre 1930. Il faut dire que l'union fait grand bruit. La mariée a 73 ans et l'époux seulement 42. Mais la princesse a décidé de vivre sa vie comme elle l'entend et de faire ce qu'elle veut de sa fortune. Son nouvel époux, qu'elle surnomme sa lubrique Petite Majesté, l'aide d'ailleurs bien volontiers à se défaire de son argent. Louis Ferdinand est connu pour ses mœurs scandaleuses, ses aventures homosexuelles avec des voyous de passage dans les quartiers malfamés de la capitale, et pour des petits délits aussi. Il est surtout très drogué. Il est fiché par la police en France et même en Espagne, à tel point que son cousin, le roi Alphonse XIII, décide finalement de le priver de ses titres et de ses privilèges. Adieu l'infant d'Espagne. La nouvelle princesse d'Orléans et Bourbon assume seule les dépenses du ménage et si elle a de la culture et de l'esprit ainsi qu'une solide répartie, elle est bien piètre gestionnaire. Enchaînant les maladresses tout en maintenant son incroyable train de vie, Marie est bientôt contrainte de vendre ses meubles, ses bijoux, avant de devoir se séparer de son hôtel particulier du 10 rue de Solferino, vendu à la Fédération Générale des Fonctionnaires. Le château de Chaumont, lourdement hypothéqué et finalement cédé à l'État 4 ans plus tard. C'est donc dans un appartement modeste de la rue de Grenelle à Paris que s'éteint la princesse le 15 juillet 1943 à l'âge de 85 ans. Et malgré ses revers de fortune, c'est à Chaumont-sur-Loire, près de son premier mari et du château qu'elle avait tant aimé, qu'elle repose désormais pour l'éternité.
Europe 1,
historiquement vôtre.